tapis. Il est minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel, vous êtes bien sûr RFI.
Afrique Soir.
Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir Clément, bonsoir à tous. À la une, le Bénin, le cyberactiviste Steve Amoussou, condamné à 2 ans de prison ferme. Il est accusé d'avoir critiqué le pouvoir et d'avoir diffusé de fausses nouvelles. Au Mali, le groupe djihadiste Jnim, allié à Al-Qaïda, intensifie ses opérations. Il a attaqué le camp de l'armée et l'aéroport de la ville du nord de Tombouctou. Jusqu'à 1 an et demi de retard dans le paiement des bourses des étudiants nigériens à l'étranger, les associations se mobilisent et en appellent au gouvernement. Dans l'actualité également, la Mauritanie, l'indignation et la colère après le viol et le meurtre d'une jeune femme enceinte. Une manifestation aujourd'hui de plusieurs associations à Nouakchott, ce sera le dossier d'Afrique Soir. Nous irons au Kenya avec le récit glaçant de 2 défenseurs des droits humains, un Kenyan et une Ougandaise, tous 2 arrêtés et torturés en Tanzanie. Nous parlerons également de la guerre des milices à Tripoli qui a repris de plus belle ces derniers jours. Et enfin, la détente avec de la musique et la sélection toujours très attendue de la rédaction web de RFI, du rap et de l'afropop au programme. Le verdict est tombé ce lundi à Cotonou dans le procès de Steve Amoussou. La criette a reconnu le cyberactiviste coupable et l'a condamné à 2 ans de prison ferme à une amende de 2 millions de francs CFA. Les faits de cyberharcèlement et d'incitation à la rébellion ont été requalifiés. Steve Amoussou et ses avocats étaient présents au moment de l'énoncé du verdict. À Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
C'est par le silence que Steve Amoussou et ses avocats ont accueilli le jugement. Pas un mot à l'énoncé du verdict. Un de ses conseillers, maître Herman Yenonfant, confie qu'il s'attendait à la confirmation de la peine de 2 ans requise par le ministère public. Maître Aboubakar Baparapé, qui défend lui aussi Steve Amoussou, estime que la criette est plus politique que judiciaire. Son confrère, Margloyan Sounou, accable la dite cour et la justice béninoise.
On le condamne parce qu'on a décidé de le condamner. On devrait le relaxer purement et simplement pour défaut de preuve. Notre justice n'est pas libre. On va lui demander de faire appel. Pour le moment, il est réticent, mais on va le convaincre. Il y a 100% de chances de gagner un appel. Si le pouvoir change, d'ici 10 mois, les choses vont changer.
Maître Rien Sounou fait allusion à l'élection présidentielle de 2026. Steve Amoussou hésite à faire appel de la décision. En août prochain, il aura passé 1 an en prison. L'urgence pour lui aujourd'hui est d'obtenir de meilleures conditions de détention. Il se plaint de son isolement. C'est la nouvelle mission qu'il aurait confiée à ses avocats, apprend RFI de bonne source. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Au Mali, après l'attaque du camp de Boulikissi dans le centre hier, c'est Tombouctou que le Jnim a pris pour cible ce lundi. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda a visé plusieurs sites militaires ainsi que l'aéroport de la grande ville du Nord. La situation est rapidement revenue sous contrôle selon le gouvernorat. L'armée a indiqué avoir neutralisé 13 terroristes. David Bachet.
Peu après 10 heures, plusieurs habitants de Tombouctou indiquent à RFI avoir entendu une détonation, puis des échanges de tirs. Moins de 2 heures plus tard, le Jnim revendique une attaque kamikaze contre le camp militaire de la ville, puis des tirs sur l'aéroport et la prise de 2 postes de contrôle aux entrées nord et est de la ville, sans préciser de bilan. Dans un communiqué, le gouvernorat de Tombouctou confirme rapidement des tentatives d'infiltration du camp militaire et des obus lancés sur l'aéroport. Pas de dégâts majeurs, assure le gouvernorat. De son côté, l'armée malienne affirme avoir déjoué la tentative d'infiltration. Les terroristes ont vite été mis en déroute par la promptitude de la réaction, indique le communiqué de l'état-major, qui évoque 13 terroristes neutralisés et du matériel récupéré. Des opérations de ratissage ont ensuite été menées. Des tirs sporadiques ont encore été rapportés à RFI dans l'après-midi. Tombouctou est une ville morte, témoigne un habitant. Les commerces sont fermés et nous restons chez nous. Hier, dimanche, c'est le camp militaire de Boulikessi dans le centre qui était attaqué par le Jnim. Plusieurs sources locales, y compris sécuritaires maliennes, évoquent un bilan de plus de 75 à plus de 90 morts. Les djihadistes ont également diffusé des vidéos vidéo montrant plusieurs militaires maliens retenus prisonniers.
Amnesty International demande aux autorités du Nigeria une enquête transparente. Y a-t-il eu bavure de l'armée samedi? Comme l'affirment les habitants de deux villages de l'état de Zamfara, au moins 20 civils ont été tués dans les bombardements d'un avion militaire. L'armée aurait confondu des groupes d'autodéfense avec des présumés bandits qui sèment la terreur dans la région. Pas de commentaires du côté de l'armée nigériane. Au Niger, l'appel des boursiers qui étudient à l'étranger. Dans une vidéo publiée ces derniers jours sur les réseaux sociaux, plusieurs associations étudiantines alertent sur d'importants retards de paiement de leurs bourses. Les étudiants interpellent les autorités du Niger. Elles leur demandent de trouver une solution pour pouvoir poursuivre sereinement les études. Magali Lagrange.
C'est un cri du cœur collectif que lancent les associations d'étudiants nigériens au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, en Turquie, en Russie, face caméra devant un drapeau nigérien ou un tableau blanc, leurs représentants alertent sur des retards conséquents dans le paiement des bourses et allocations jusqu'à un an et demi. Certains n'ont rien touché depuis le versement de la première tranche 2023-2024, alors qu'ils sont loin de leur famille. La Tunisie, par exemple, compte près de 1000 étudiants nigériens selon les chiffres de leur association. La majorité boursiers, ils doivent toucher jusqu'à 600 000 francs CFA par trimestre, environ 900 euros. La situation est critique, résume un étudiant boursier. Sous couvert d'anonymat, le jeune homme rappelle que les allocations couvrent les frais de logement et de restauration. Il ajoute que les frais de scolarité n'ont pas été payés aux universités qui les accueillent, qui les menacent de sanctions. Une précarité grandissante qui compromet les résultats académiques, affirment les étudiants nigériens de l'étranger, alors qu'ils constituent la relève intellectuelle et scientifique du Niger. Ils en appellent au CNSP pour trouver des solutions et garantir leur droit à l'éducation.
En Guinée, mobilisation d'une centaine de journalistes et d'organisations de défense de la liberté de la presse. Dans un communiqué, ils appellent ce lundi à la libération du journaliste guinéen Habib Marwan Camara, disparu depuis 6 mois après avoir été arrêté par des hommes en uniforme. Le directeur du site Le Révélateur 224 est très critique du pouvoir.
RFI à Nouakchott 103.3 FM.
Où une manifestation a été organisée ce matin dans la capitale mauritanienne devant l'Assemblée nationale à l'appel d'organisations de défense des droits humains. Des dizaines de personnes sont venues dénoncer le meurtre et le viol d'une jeune femme enceinte et dont le corps sans vie avait été retrouvé jeudi dernier. Pierre Firsion.
Awa Traoré était âgée de 18 ans et enceinte de 2 mois. Selon la police mauritanienne, son corps a été retrouvé dans la chambre d'un jeune homme qui entretenait une relation avec elle. Cet homme, qui est suspecté de l'avoir violée puis tuée, a pris la fuite. L'affaire provoque depuis jeudi dernier indignation et colère au sein de la population, car ce n'est pas un cas isolé. En réaction, une manifestation était organisée ce matin à Nouakchott. Quelques minutes avant le début du rassemblement, cette manifestante explique les raisons de la mobilisation.
Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois qu'on assiste à des viols suivis de meurtres, des viols des jeunes filles, des mineurs moins de 18 ans. Et ce cas est encore plus flagrant puisque c'est une jeune fille enceinte qui était sortie de chez elle pour aller à l'hôpital. Elle se retrouve enfermée dans une chambre, tuée barbarement et violée. Et la lenteur des procédures de la police aussi a cassé nos rêves, nos espoirs à la justice. Le fait aussi que le procureur de la République est venu 24 heures après. Tout ceci suscite à ce qu'on puisse sortir et dénoncer ces violations de droits humains.
Au moment où nous réalisions cette interview, la police a tenté d'intervenir.
Alors, c'est la police qui est venue nous disperser. Comme d'habitude, c'est deux poids, deux mesures. C'est comme ça en Mauritanie.
Mais la manifestation a finalement pu avoir lieu. Ils sont quelques centaines à y avoir participé. Des manifestants qui ont notamment réclamé justice pour Awa Traoré.
Et parmi ces manifestantes, Dienaba Ndiom, les militantes féministes mauritaniennes, il est temps, nous dit-elle, que la Mauritanie adopte une loi condamnant les violences faites aux femmes et les féminicides. Elle répond à Pierre Firsion.
De manière très quotidienne, on assiste à des cas de violences sexuelles. Les violences sexuelles, c'est pratiquement le quotidien des organisations des droits des femmes et des féministes. Mais là, en fait, c'est un cas de féminicide et c'est pas le premier. Donc, c'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Et donc, les féministes ont décidé de sortir pour rappeler encore une fois, en Mauritanie, on n'a pas de loi qui régit toutes les formes de violence faites aux femmes. Il n'y en a pas. Et pour rappeler, en fait, qu'on a besoin de ce projet de loi qui traîne depuis 2015, qui soit voté pour qu'on ait un cadre juridique qui soit clair et qui soit applicable et qui peut protéger et prendre aussi en charge les victimes de violences sexuelles de manière très élargie. C'est aussi pour nous l'occasion de rappeler qu'on a beaucoup de femmes en Mauritanie qui se retrouvent en prison alors qu'à la base, c'était des victimes de viol. Et de rappeler une fois encore de plus qu'on n'a aucun article dans toute notre juridiction en fait, qui définit c'est quoi le viol.
Les autorités avaient pourtant présenté un projet de loi par le passé. Pourquoi n'a-t-il pas été encore voté, selon vous?
Le problème, c'est que le fait de proposer un projet de loi, bon, au début, on l'avait appelé loi sur les violences basées sur le genre, puis on a dit que c'est le mot genre qui posait problème, donc on l'a appelé finalement loi sur les violences faites aux femmes et aux filles, ça n'a toujours pas passé, et là, on l'a appelé encore loi Karama. Quel que soit l'intitulé, quel que soit, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une loi, comme je dis, qui régit toutes les formes de violence sexuelle et sexiste en Mauritanie. Les autorités ont proposé ce projet de loi. S'ils veulent passer ce projet de loi, il sera voté. Mais je pense qu'il y a un manque de volonté, en fait, de l'État pour faire passer ce projet de loi.
Comment expliquer cette chape de plomb autour des violences faites aux femmes en Mauritanie?
On est dans une société patriarcale où les rapports de force sont là, où la plupart des violences sont banalisées, les harcèlements sont banalisés, le fait que les femmes soient mutilées, c'est quelque chose de très banal, le fait qu'il y ait des mariages précoces, c'est très banal, le fait qu'il y ait des attouchements, des violences verbales, des violences psychologiques et émotionnelles, c'est tellement banalisé en fait que moi, en tant que sociologue, en plus d'être féministe, en fait, ça me demande de questionner aussi notre construit social, c'est-à-dire comment on est éduqué. Comment l'éducation est faite de telle sorte que dans notre communauté, dans notre société, de manière beaucoup plus élargie, on arrive à tolérer ces dérives, à toujours stigmatiser les victimes. Donc, ça questionne tout le monde, ça questionne l'éducation, ça questionne le système social et les rapports de pouvoir, bien sûr, qu'on instaure aussi entre les sexes.
Dianaba Ndiom, mauritanienne et militante, répondait aux questions de Pierre Firsion. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 22h41, en temps universel. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a arrêté la liste électorale définitive. Elle comprend précisément 8 727 431 inscrits, soit 715 000 électeurs supplémentaires. Pour le patron de la CI, Ibrahim Koulibaly Kuiber, une nouvelle révision de la liste électorale, comme le réclament plusieurs candidats, est impossible au risque de compromettre la date de la présidentielle fixée au 25 octobre. L'actualité, c'est aussi la politique en RDC. L'opposant Martin Fayulu tend la main au président Tshisekedi. Dans un message sur les réseaux sociaux, il lance un appel à la responsabilité et s'inquiète d'une menace de division du pays, une balkanisation, dit-il. Un message d'à peine 3 minutes qui sonne un peu comme une réponse à celui de l'ancien président Joseph Kabila, diffusé il y a une dizaine de jours à Kinshasa, Pauline Azidi.
Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire.
Après ce constat, Martin Fayulu s'adresse à ceux qu'il considère comme les responsables de la crise actuelle, Corneille Nanga, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Au chef du groupe armé FCM-23, il lui demande d'arrêter d'être complice des massacres, estimant qu'aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Concernant l'ancien président, Martin Fayulu l'interpelle sur sa présence à Goma, perçue par lui comme une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Quant à Félix Tshisekedi, il lui tend la main.
Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe.
Un appel au dialogue, Martin Fayulu soutient l'initiative des églises pour un forum national. Les religieux attendent d'être reçus par le chef de l'État. Avec ce message, l'opposant espère leur redonner un peu d'élan. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et la porte-parole du président Tshisekedi, Tina Salama, salue le patriotisme et le sens d'engagement pour la coalition nationale de l'opposant Martin Fayulu. On en vient à ces témoignages glaçants. Ça se passe au Kenya. Ce matin, à Nairobi, les deux défenseurs des droits humains kényans et ougandais, Boniface Mangui et Agather Atuhaire, ont raconté les terribles sévices dont ils ont été victimes en Tanzanie, arrêtés à Dar es Salaam il y a 2 semaines, alors qu'ils étaient venus assister au procès de l'opposant Tundu Lissou. Après 3 jours de détention au secret, chacun a finalement été expulsé dans son pays respectif. Mais avant cela, ils ont été torturés. Gaël Alex.
C'est à leur hôtel que Boniface Mwangi et Agata Ratouahir sont arrêtés. Après un passage à l'immigration, puis dans un poste de police, des agents de la sécurité intérieure viennent les chercher. Dans la nuit, les mains attachées, les yeux bandés, ils sont emmenés dans un immeuble inconnu. Là, ils seront dénudés, puis pendus la tête en bas. Boniface Mwangi.
Là, ils ont commencé à frapper violemment sur mes pieds, tout en me questionnant. Quel est ton nom? D'où viens-tu? Qui t'a envoyé? Pourquoi es-tu venu déstabiliser notre pays? Puis un type a mis du lubrifiant dans mon derrière et a commencé à insérer des objets. Et il me demandait de dire « Merci Samia, merci Samia ». Alors j'ai remercié la présidente tanzanienne.
Non loin, Agata Ratouahir subit exactement les mêmes sévices. Durant ces 3 jours de détention, l'ambassade ougandaise ne s'inquiète pas de son sort. Pour Agata Ratouahir, c'est toute la région d'Afrique de l'Est qui est complice.
Je savais que le jour où je serais torturée viendrait. Je vis avec cette inquiétude en Ouganda. Mais je ne savais pas que ça arriverait en Tanzanie, où je n'ai absolument rien fait, même pas manifesté. Les officiels tanzaniens n'avaient pas peur du tout d'appeler des brutes pour faire ce qu'ils nous ont fait. Pour moi, c'est un niveau d'impunité que je ne saurais imaginer. En tant que citoyen d'Afrique de l'Est, on ne peut compter que sur nous-mêmes.
Dans un communiqué hier, un collectif d'organisations de la société civile de la région a demandé à la communauté internationale de se mobiliser contre les violences d'État en Afrique de l'Est. Gaëlle Lalex, Nairobi, RFI.
Minuit 45 ici à Paris avant Afrique Echo qui va nous emmener au Maroc pour parler du secteur de la pêche qui connaît certaines difficultés d'écouter le rendez-vous musical en compagnie de Franck Baudin. On va parler de football avec le début d'une séquence internationale qui a commencé aujourd'hui. La Tunisie a battu le Burkina 2-0 en match amical. Plusieurs dizaines de matchs sont prévus jusqu'à mercredi, essentiellement pour préparer des échéances beaucoup plus importantes. Cédric d'Oliveira.
C'est l'une des rares séquences où les équipes africaines ne sont pas engagées dans des éliminatoires, ni pour une phase finale de la CAN, ni pour la prochaine Coupe du Monde. Alors les sélectionneurs en profitent pour tester leur groupe et affronter parfois des nations d'autres continents. La Côte d'Ivoire d'Emers Faye, championne d'Afrique en titre, ira notamment disputer un tournoi amical au Canada durant la trêve, qui la verra affronter les Canucks de Jonathan David le mercredi 11 juin, après la Nouvelle-Zélande ce dimanche. De son côté, le Sénégal, sans Sadio Mané, se rendra en Irlande puis en Angleterre pour un duel alléchant face à l'équipe qu'il avait battue en 8e de finale de la dernière Coupe du Monde. D'autres ont adopté un programme plus classique. La RDC défiera le Mali dès jeudi à Orléans en France avant de faire face à Madagascar. Les Camerounais privés de plusieurs cadres seront eux à Marrakech pour affronter l'Ouganda et la Guinée équatoriale. Les Gabonais passeront aussi cette trêve internationale au Maroc avec des matchs contre le Niger vendredi, puis la Guinée-Bissau lundi prochain. Quant aux Lions de l'Atlas qui disputeront la CAN à domicile, ils seront opposés à la Tunisie et au Bénin.
Voilà, et à suivre ce mardi, Malaisie-Cap-Vert, dont le coup d'envoi est prévu à 12h, temps universel. La pêche est l'un des piliers de l'économie du Maroc. Le royaume est le premier producteur mondial de sardines. Mais ce secteur connaît une crise. Les stocks de poissons dans les ports marocains diminuent entre 20% et 30% de baisse. Et puis le prix des sardines, lui, a augmenté, ce qui a agité le débat public avant le ramadan, tant la sardine est un élément essentiel de la gastronomie du pays. Près de 80% des pêches de poissons sont effectuées dans les eaux du Sahara occidental, où la raréfaction des ressources se fait également ressentir. Cet Afrique Echo avec François Hume Ferkataji.
Dans le port de Bouchedour, les pirogues colorées des pêcheurs artisanaux côtoient les chalutiers spécialisés dans la capture de la sardine et du maquereau. Tous les pêcheurs font le même constat. Malgré l'augmentation du nombre d'unités de pêche, le poisson se fait rare.
Tout à fait. Ces changements climatiques, ils ont un petit peu impacté, je dirais, le stock. Et non pas le stock, mais plutôt les conditions de pêcherie de ce type de poisson, qui c'est le pélagique.
Ismaël Benazouz, chef division de développement à l'Agence nationale des ports.
Je pense que à travers le plan d'aménagement initié par le département de pêche et l'Institut de recherche halieutique, et à travers les campagnes de repos, là, sont destinées effectivement pour préserver la ressource halieutique et de gérer cette rareté, en espérant qu'elle soit temporelle.
Pour Badr El Moussaoui, président de la commune d'El Marsalayoun et patron d'une des 45 conserveries de poissons de la région, la question de la raréfaction des ressources se pose. Le volume du poisson pêché a diminué d'un tiers entre 2024 et 2023 à Layoun.
Ça fait 2 ans maintenant que les chiffres en baissent, surtout sur le débarquement de la pêche, surtout dans le poisson biologique. Mais on trouve que c'est tout à fait que c'est normal, c'est à cause de la changement climatique.
Selon les experts, le changement climatique n'est pas le seul facteur pour expliquer la raréfaction des ressources. La surpêche ou encore les effets des usines de dessalement pourraient participer à la diminution des stocks. Conserves, huile ou farine de poisson, au Maroc, 500 000 emplois directs ou indirects sont liés au secteur. Le maire de Darla, Erakheb Armotola, se veut toutefois rassurant.
Oui, c'est une question toujours avec l'évolution de la population, avec l'évolution de la demande cruciale pour la pêche. Mais il y a tout un programme lancé par le ministère de l'Agriculture et de Pêche concernant la préservation de ces ressources-là.
Dans un autre registre, la situation politique du territoire, considérée comme non autonome par l'ONU, pèse aussi sur le secteur. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé l'année dernière l'annulation des accords de pêche entre le Maroc et l'UE, estimant qu'ils avaient été établis, je cite, « sans le consentement du peuple du Sahara occidental ». François Imferkataji, de retour de Boujdour El Aaiyoun, RFI.
Notre rendez-vous musical à présent dans Afrique Soir, et c'est en compagnie de Franck Baudin de la rédaction web de RFI. Bonsoir Franck.
Bonsoir Sylvie et bonsoir à tous.
Alors on va commencer ce tour d'horizon de l'actualité musicale de la semaine avec de la musique algérienne.
Et oui Sylvie, on vous parle de Soul King, le chanteur algérien. S'est produit ce week-end à New York, un concert qui a réuni plus d'un millier de spectateurs dans une ambiance de folie. Ça s'est passé sur la scène du Irving Plaza. Vous savez, c'est ce club mythique qui se trouve près de Union Square.
Alors vous avez l'air de bien connaître New York, Franck.
Alors pas du tout, justement Sylvie, je n'y suis jamais allé, mais j'ai lu le reportage de Michael Oliveira da Costa, notre correspondant à New York. Il raconte toute la soirée sur notre site. Il y a même une interview de Soul King à la fin de l'article. Je vous propose d'écouter son tube Que Mira Bobo. C'est sorti cet hiver et si vous allez voir le clip, vous reconnaîtrez le stade Vélodrome parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Marseille ces derniers jours.
Et à tous les coups, je vais finir solo comme avant. Elle me dit mes gustas, tout, elle parle dans le vent. Et je prends le soleil.
Que Mira Bobo du chanteur algérien Soul King. Et puis, Franck, dans l'actualité musicale, on va changer d'ambiance pour parler de rap francophone.
Dans les ténèbres, je commence ma vie. Je parle en G41 et mon trail. De la voirie à la Harry. Je fais des AR au-dessus de l'Océanie. Le pistolet te fume comme le Wally. Le bruit que ça fait quand l'âme s'est en allée. Je me suis sapé pour des strass et paillettes. Tellement je m'aime les arrêtes, la salope.
Et on parle plus précisément d'un des albums les plus attendus du rap francophone. Il s'agit de Beya, le dernier disque de Damso. L'un des plus attendus parce que sa sortie le 30 mai dernier avait été annoncée en 2022 sur les réseaux sociaux de l'artiste. Un album percutant et engagé à l'image de la carrière du rappeur congolo-belge qui laisse entendre que Beya pourrait bien être son dernier disque. Pablo Patarin vous explique tout ça mieux que moi dans un superbe portrait de Damso à lire sur RFI.fr. Et pour comprendre de quoi on parle, voici un extrait avec ce titre impardonnable.
Qu'un cœur brisé fait que m'y met les sentiments. Des aiguilles tournent, n'ont aucun effet sur moi. J'ai du mal à pardonner ce qu'ils m'ont fait tellement de tort. Oh, je les veux mal.
Impardonnable du rappeur congolo-belge Damso qui vient de sortir son album Beya. Et on va terminer ce tour d'horizon avec une pépite qui nous vient de Centrafrique et qui s'appelle Les Cartels.
L'animal du colitazo, agitene mon macabo, il a la soie à la guaguitimo.
C'est le phénomène qui secoue la scène musicale de Bangui et qui commence même à s'exporter. Ce jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a trouvé la recette parfaite du cocktail d'ambianceur, un mélange de rumba et d'afrobeat. C'est depuis Lomé au Togo que Les Cartels fait vibrer la Centrafrique. Notre correspondant à Bangui, Rolf Steve Domialeux, nous dit tout de ce jeune prodige de l'afropop dans son portrait à retrouver dans la rubrique musique de notre site. On se quitte avec ce titre Kelemba, une grosse dédicace à l'Afrique francophone. Où que vous soyez, j'espère que vous dansez avec nous.
Tout le monde va danser, Abidjan va bouger, Bangui Douala va danser, Lomé Dakar va bouger. Tout le monde va danser, Cotonou va bouger, Kinshasa Brazza va danser, Libreville va bouger.
Abelino, Nabuko Mundoto, Nadia Sika, Malania Bumoka, Yalfonso.
RFI Soir.
Et on poursuit en musique, extrait de la playlist d'RFI, Roy Ayers, disparu en mars dernier, prophète du groove, le vibraphoniste qui s'est éteint donc récemment. On va écouter ce titre, Boogie Down, qui va nous mener jusqu'à 1h du matin ici à Paris. Bonne écoute.